l'universalité de l'Église et que Rome n'est pas un lieu, mais que Rome est l'endroit d'où on essaime, où on va partir.
Et ça, c'est toujours important.
Alors, je termine parce que je vois qu'il est déjà 11h et qu'il faudra
10h.
Il faudra que je prenne encore l'évangile et une partie des actes, bien entendu, quelques textes clés. Enfin, comme ça, je vous aurais donné tout de même la presque. Alors, à partir de là, nous avons une sorte de reprise, de remise au point des choses, dans le discours d'Athènes, qui est typologique de la rencontre des cultures. Et d'une manière tout à fait particulière, la rencontre de la révélation qui est dans l'histoire avec les idéologies qui sont dans les histoires. Chacun a son idéologie. Nous avons des lois, des constitutions. Et une constitution universelle n'est pas encore dans notre tête. Et pour arriver à une constitution européenne, c'est pas du tout évident. Pas du tout évident. Si tout le monde avait le sentiment européen, le sentiment de la koinonia, de la communauté de partage, il n'y aurait même pas besoin de constitution, il n'y aurait même pas besoin de loi. Chacun ferait l'Europe. Chacun, pour soi, c'est une partie du grand corps qui fait l'Europe. Et au fond, le modèle devrait venir de l'Église. Le modèle de l'universalité, non pas de l'uniformité, mais de l'unité dans la diversité. Et cette unité étant toujours faite par l'Esprit Saint, configurant les hommes au corps du Christ pour faire ce corps du Christ avec une tête. La tête, ça ne parle pas, la tête, c'est Jésus. Et Jésus ne dit, et le pape ne dit pas n'importe quoi, le pape dit aujourd'hui ce que Jésus dit. Donc il est lié par cette parole de Jésus. Il ne peut pas légiférer comme il veut. Il ne peut pas légiférer comme un législateur humain. Un législateur humain qui est élu à la majorité et qui essaie de faire des lois à partir du consensus. Or, il doit écouter l'Esprit Saint pour essayer de former le corps du Christ. C'est une toute autre tâche. Et donc cela nous est marqué par Paul dans cette diversité d'approches de villes. Et si mes deux continents, l'Europe et l'Asie, c'est bien pour faire percevoir aussi que cette universalité va poser de gros problèmes humains. Problèmes, bien sûr, comme je vous disais, des effets secondaires, du médicament de la résurrection, par rapport aux différentes cultures. Il y a des répercussions dans les cultures, il faut les gérer. Il faut les gérer d'une certaine manière, toujours par retour à la résurrection. Et quand l'homme, les sociétés humaines, sont conscientes de leur rôle et des limites de leur rôle, elles doivent dire ici, nous ne sommes pas maîtres. Pour juger de la résurrection, pour juger de cette problématique religieuse essentielle à Israël et aux premiers chrétiens, là, nous ne pouvons rien dire. Nous ne pouvons dire les choses. Et là, nous pouvons être arbitres. Intéressant aussi, ça vient dans les actes des apôtres, qu'au moment où ces affaires religieuses atteignent la sphère publique, quand il y a des grabuges, quand il y a des manifestations, quand il y a des troubles sur le plan de la vie publique, quand la vie publique est empêchée, alors on peut sévir dans ces limites-là. Mais au-delà, on ne peut pas. Si, ça c'est ce que nous appelons aujourd'hui, et nous pouvons nous référer également au document de Vatican II, ce qu'on appelle la véritable tolérance. La tolérance, elle n'est pas si facile. Il faut accepter la différence de l'autre sans lui imposer des choses, et en même temps, en continuant d'être témoin, et donc missionnaire. Pas une situation si simple. Mais c'est tous ces problèmes-là. Et de fait, c'est intéressant de voir, par exemple, il y a pas mal de réflexions qui ont été faites sur cette partie-là des actes des apôtres, notamment par des exégètes ou des théologiens indiens. Un indien qui a fait une étude fort importante sur Éphèse, et par des théologiens africains. pour voir ce que signifie concrètement ces problèmes d'inculturation. Jusqu'où, comment les gérer, etc. Les actes des apôtres ne disent pas, enfin, ils donnent quelques principes de base, mais ils ne disent pas ce qu'il faut faire. Mais à partir d'une réflexion et d'entrer dans un esprit, il y a moyen de percevoir, étant donné hein, ce que sont les situations concrètes, comment on peut faire quelque chose, expliciter à la fois cette unité de l'Église et cette pénétration de l'Église dans des cultures diverses. Ça, ce sont les chapitres que nous avons vus qui vont de 15-36 à 21. Alors, il y a encore, il y a une suite. Et au chapitre 20, nous l'avons vu, c'est le testament de Paul, qui reprend pratiquement le testament de Jésus, mais qui l'adapte à la situation. Testament de Paul. Et ce testament de Paul, vous l'aurez vu, c'est un testament qui montre combien Paul est conscient de sa responsabilité et qui demande hein, à ceux qui vont prendre sa charge, le relais, il leur demande d'être tout à fait responsables. Ils sont portés par la parole de Dieu et ils doivent vivre de son esprit. Et il le fait avec une grande confiance. Et à partir de ce moment-là, il rentre en hâte à Jérusalem pour y vivre sa passion, sa mort et sa résurrection, en quelque sorte. Pour être vraiment configuré au destin de Jésus. Et si Luc ne nous montre pas la passion de Paul, il décroche par rapport à la destinée même de Jésus. Il veut nous montrer que la vie du témoin entre vraiment et reprend vraiment la vie du maître. Et donc il passe par cette solitude. Je vous ai parlé de la solitude de Jésus, abandonné par tous. Et c'est dans cette solitude qu'il devient véritablement fils et qu'il se remet à son père. Et cette solitude, de cette solitude, les hommes ne sont pas absents, puisqu'il en est la victime. Cette humanité est présente jusque dans les coups qui lui sont donnés. Eh bien, c'est un peu la même chose pour Paul, avec cependant une distinction assez importante. Nous voyons depuis le chapitre 21e déjà, jusqu'au chapitre 28e, donc tous les derniers chapitres, nous voyons un Paul seul. Seul et constamment controversé. Et alors que Jésus s'est tu pendant sa passion, nous voyons Paul parler. Il y a encore des discours de Paul. Mais ce ne sont plus des discours de fondation, ce ne sont plus des homélies, ce sont des apologies. Il va se défendre. Et donc ça, c'est la grande différence entre la passion de Jésus et la passion de Paul. Il va passer de tribunal en tribunal, il va être amené de l'un à l'autre. Il va être constamment controversé. Il va être controversé surtout et avant tout par ceux de son peuple, précisément parce qu'il est en train de leur révéler constamment leur endurcissement. Il continue bien le travail qu'avait commencé Étienne. Il révèle constamment l'endurcissement de ceux qui lui en veulent, et il est devant eux le prophète d'Israël et le Jésus vivant. Donc, quand Paul paraît au tribunal, pour Saint-Luc, il a conscience d'être la présence actuelle de Jésus pour les gens. Et c'est donc à travers la controverse, à travers les oppositions, même du judaïsme entre sadducéens et pharisiens, à travers tout cela qu'il va devoir manœuvrer. Et quel va être l'arbitre dans tout cela? Le pouvoir civil. Quel pouvoir civil? Il va réclamer lui-même comme arbitre le pouvoir de Rome. Parce qu'il faut bien finalement s'en remettre à une réalité humaine. Parce que c'est dans cette réalité humaine-là qu'il faut vivre. Ça, c'est intéressant. Et il va être sauvé plusieurs fois de ses frères juifs par un tribun ou par les Romains. Ce sont les Romains qui vont le protéger. Le droit romain est capable de protéger l'homme. Donc ça nous donne la valeur d'un droit humain, qu'il soit naturel ou non, peu importe. Ça montre bien que le droit humain est vraiment comme but, et il peut le réussir, a comme but de protéger la réalité de l'homme, les droits de l'homme, comme nous disons aujourd'hui. Et tout cela est présent dans le texte. Et c'est pourquoi saint Paul va faire appel à son droit de citoyenneté romain, encore il va continuer, et il va en appeler à César. Mais on va nous dire, par la vision qu'il reçoit de Dieu, de même que tu as été mon témoin à Jérusalem, tu vas être mon témoin à Rome, on va nous dire que derrière cette réalité humaine, il y a un projet divin. Et que le projet divin, c'est de manifester effectivement l'universalité. Et puisque Rome est la tête de l'Empire, c'est dans ce lieu de Rome que l'on va pouvoir percevoir jusqu'à quel point la religion est universelle et n'est pas la secte d'un peuple. La religion est pour tous. La religion chrétienne est pour tous. Et donc c'est cela qui va nous être manifesté à travers tous ces passages dans lesquels nous allons retrouver au chapitre 22 et au chapitre 26, par deux fois, mais c'est déjà la deuxième et la troisième fois, par deux fois, le récit, mais cette fois-ci c'est Paul lui-même qui nous le fait, le récit de sa vocation. Au chapitre 9e, c'est Saint-Luc qui nous a raconté la vocation de Paul. Donc il était encore un peu extérieur à l'affaire. Au chapitre 22, devant les frères juifs, et au chapitre 26, devant les juifs et surtout des romains, et des notables, il va redire sa vocation. Il va redire son appel. Et il va redire son appel en reprenant la vocation de Jérémie, prophète des nations du théâtre. Il s'est dit à Jérémie. Et donc, il va se situer dans le droit fil des prophètes juifs, et notamment du prophète Jérémie, mais en même temps pour manifester l'universalité. Et alors, au chapitre 27e, alors qu'il est sur la mer, jusque-là, je vous ai dit que les voyages avaient bien toujours été convenables, on trouvait ce qu'on voulait, à ce moment-là, le voyage devient impossible. Tout le temps, depuis le départ, ça va pas. Il doit aller à Rome, et pourtant ça ne va pas. Et alors, dans ce voyage vers Rome, dans un bateau qui est un bateau solide, un bateau tel qu'on en fait à l'époque, qui sont très résistants, au milieu d'une tempête, nous allons assister, au fond, au chemin de l'Église à travers les tempêtes de l'humanité. Il y a une petite poignée de chrétiens avec un homme qui est vraiment comme un prophète au milieu de ces gens. Il y a des spécialistes, ces spécialistes de la navigation, il y a beaucoup de spécialistes de la navigation, ce sont une figure des politiciens, etc. Des spécialistes de la navigation qui savent y faire, qui veulent se sauver, conjonctures sont difficiles. Donc il y a des marins, il y a des soldats. Le chef des marins, le commandant, l'intelligence, la compétence. Il y a les marins qui sont tous ceux qui font marcher les affaires, les ouvriers du monde. Et vous avez aussi le pouvoir qui peut être répressif. Ce sont les soldats. Mais qui sont... Et qui apparaissent, chacun apparaît comme deux hommes. Oui, ce voyage, qui est un voyage bien sûr historique, est raconté aussi comme une parabole. La parabole non plus de Jésus qui vient rencontrer les pèlerins d'Emmaüs sur une route, qui s'en va vers l'auberge, mais comme le prophète, le témoin prophète, controversé, prisonnier, qui se trouve au milieu du monde et qui est d'une liberté extraordinaire et qui est le témoin et le prophète du dessein de Dieu au milieu de toutes ces vicissitudes humaines et qui passe à travers la mort. Et alors nous allons le voir, à Jérusalem. On va à Jérusalem. À Rome, pardon, excusez-moi. On va à Rome, dans sa dernière entrevue avec l'Église de Rome, et nous verrons ce qu'elle signifie. Donc, si vous voulez bien, maintenant, nous allons faire la pause. Donc, je serai fort bref, d'autant plus que je vais devoir prendre aussi, pour continuer, aller jusqu'au bout, je vais devoir prendre aussi l'Épître aux Éphésiens, la fin de l'Épître aux Éphésiens. Vous aurez remarqué que je n'ai pas fait l'exégèse de l'Épître aux Éphésiens, ça nous prendrait beaucoup plus de temps, toute une session. Mais, simplement pour que vous entendiez les choses d'une autre manière. Cependant, pour expliquer comment la fin de l'Épître aux Éphésiens, qui est une sorte de leçon de morale, sociale et domestique, comment cela peut s'appliquer à ces deux dernières sections des actes, ça demanderait beaucoup, beaucoup de temps. Alors, je ne pourrais que faire une évocation. Mais enfin, je crois que cette évocation est importante. Parce que c'est à partir du mystère de Jésus vivant, présent dans son Église, que nous pouvons comprendre ce qu'est et toute l'importance de la morale chrétienne. Je dirais de la morale christique. La morale que le Christ lui-même, agit dans notre vie, dans notre existence. Et c'est la portée de la souffrance de Jésus, seul, vivant son combat intérieur, et de la souffrance de l'apôtre, seul devant les tribunaux, et vivant son combat intérieur. La morale est le combat intérieur du chrétien. C'est pas seulement une manière de vivre. C'est aussi cela, mais c'est aussi à partir du combat intérieur. Comment est-ce que je me laisse devenir le corps du Christ? Bon, verrons ça tout de suite. Donc, je vous disais, dans la passion et résurrection de Jésus, une passion et le ressuscité sur nos chemins, la passion de Jésus, je voudrais dire passion de Jésus à Jérusalem, et... Jérusalem est ici important parce que c'est le lieu du salut et c'est le lieu où Jésus rencontre son Père. Et face à cela, nous avons le témoin prophète au milieu de son peuple, souffrant à Jérusalem au milieu de son peuple et exprimant là devant son peuple sa mission, mettant le peuple d'Israël et le peuple de Jérusalem d'une manière particulière face à sa mission à lui. Et demandant que ce peuple de Jérusalem soit en quelque sorte le juge de sa mission. Donc là, dans la première partie, la passion de Jésus jusqu'à sa mort, et la mort de Jésus nous en vient tout de suite, est parallèle à cette passion et cette quasi-mort, parce qu'il risque de nouveau d'être lynché sur l'esplanade du temple, Paul, et il est arraché par le tribun au milieu de son peuple. La première partie. Et donc, elle va pour l'évangile du chapitre 22, c'est pratiquement tout l'ensemble de la passion, de 22 jusqu'à 24, jusqu'au début de 24, mettons 22, 23. Et c'est seulement au chapitre 24 que nous avons l'expression de l'universalité qui est désignée là. Elle n'est pas encore mise en œuvre, puisqu'elle le sera dans les actes. Mais l'expression de l'universalité est dans ce que j'ai intitulé « Le ressuscité sur nos chemins ». Et bon, vous avez bien vu que là, le centre est N minus. Si nous regardons maintenant dans les actes des apôtres, là, les lieux, de nouveau, sont bien déterminés, bien précis. Vous avez d'abord le prisonnier, donc les actes chapitre 21 à 28, c'est vraiment le prisonnier comme témoin de la grâce de Dieu. Comme témoin vivant
Attention, c'est un 8 et pas un 6.
Ah oui, c'est un 8 et il faudra que j'ajoute, parce que je n'ai pas laissé la place, mais enfin, il faudra que j'ajoute une troisième partie, vous allez voir pourquoi. C'est une conclusion dans les actes, il y a une petite conclusion aussi dans l'évangile. Donc, depuis le chapitre 21e des actes, jusqu'au chapitre 23, c'est 21, 22 et 23, vous avez donc le témoin, Paul, comme prophète, il dit exactement la situation, prophète, au milieu de son peuple. Vous verrez que le texte est admirablement bien composé. 21 à 23. Et là, nous sommes à Jérusalem, et même si nous commençons à aller vers Césarée, c'est toujours face à des Juifs que Paul se trouve, toujours au milieu de son peuple. À partir du chapitre 24e, 24, 25 et 26, 24 à 26, Paul se trouve protégé par le gouvernement romain, par les procurateurs. Il est véritablement protégé contre son peuple, qui méconnaît sa mission alors qu'il leur a rappelé. Il est protégé, comme je vous le disais tout à l'heure, par le gouvernement. Alors nous allons mettre, à partir au chapitre 24, une conclusion qui est la bénédiction. Et au chapitre 27e, vous avez, reprenant en grande partie Emmaüs, le chapitre 27e, on pourrait le mettre là au-dessus, on peut le mettre ici aussi, 27-28, la conclusion vient à Rome. La conclusion, c'est à Rome. Tandis que le chapitre 27 lui-même, qui se situe sur la mer et dans l'île de Malte, c'est en fait l'équivalent du ressuscité sur le chemin, c'est le naufrage. Mais nous l'avons traité d'une manière tout à fait particulière, le naufrage. On n'a pas gardé dans cette partie-là, parce qu'il nous semble qu'il a déjà une portée conclusive, celle que je viens de vous indiquer tout à l'heure. Il suffit de vous donner cela, ce sont des points de repère, si vous voulez davantage, vous irez voir dans les commentaires, celui de Luc d'une part et celui des actes des apôtres d'autre part. Bon, je reviens maintenant sur deux ou trois points. Je vous ai dit donc que dans l'évangile de Luc, nous sommes au chapitre 22e, on nous parle de la Pâque juive, et Jésus fait la Pâque juive avec ses disciples, même si historiquement il l'a anticipé, puisqu'il est mort le jour où au moment où on célébrait la Pâque dans les maisons. Mais j'attire simplement votre attention sur la manière dont la chose est racontée. Au chapitre 22, verset 14, et quand arriva l'heure, il s'allongea à table et les apôtres avec lui. Faire remarquer qu'il dit apôtre, et il dit à leur adresse, de désir, je désirais manger cette Pâque, c'est-à-dire la nuit pascale, avec vous avant que je souffre. Car je vous dis, je ne la mangerai certes plus, cette Pâque, cette réalité pascale juive, jusqu'au moment où elle aura été accomplie dans le royaume de Dieu, c'est-à-dire au moment où je mourrai sur la croix. Donc, moi-même, dans ma vie, j'accomplis la Pâque juive, c'est-à-dire la libération du peuple. Bien ça, la Pâque juive. Hein. Donc, il parle de la Pâque que l'on mange, l'agneau pascal que l'on mange. Ça, c'est vraiment le repas juif. Ayant reçu une coupe, la coupe après avoir mangé l'agneau pascal, ayant rendu grâce, il dit, prenez ceci et partagez entre vous, car je vous dis, je ne la boirai certes plus à partir de maintenant du produit de la vigne, jusqu'à ce que soit venu le royaume de Dieu. Ce n'est pas encore l'Eucharistie, hein, attention. C'est toujours le repas pascal. Il dit, je ne boirai certainement plus cette Pâque, vient de dire « Je ne mangerai plus l'agneau pascal jusqu'à ce qu'il soit accompli dans le royaume de Dieu », mais attention, elle est accomplie dans le royaume de Dieu par ma mort, et puis, par ma résurrection, elle devient présente parmi vous, jusqu'à ce que soit venu le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu est en train de venir quand Jésus ressuscité marche sur la route. Donc il nous dit déjà la perspective, l'ouverture, le sens profond de la Pâque juive. Cette Pâque juive qui signale déjà sa montée vers Dieu et son retour vers les hommes. Ayant pris du pain et en rendu grâce, maintenant nous passons à l'Eucharistie. Et en rendu grâce, vous voyez que le terme rendu grâce qui vient deux fois au verset 17 et au verset 19 est ambigu. Et effectivement, ça n'a pas toujours été bien compris par les copistes qui ont cru qu'il disait deux fois la même chose. Et dans certains manuscrits, vous ne trouvez pas la fin du verset 19 et le verset 20. C'est ce qu'on appelle la version longue ou la version brève. Je crois qu'il faut garder, comme la plupart des auteurs aujourd'hui, garder la version longue. Et ayant pris du pain et en rendu grâce, il le rompit et le leur donna en disant, ceci est mon corps, lequel est donné pour vous, faites ceci en ma mémoire. L'instauration de l'Eucharistie. Et la coupe pareillement, après avoir dîné en disant, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang, lequel est répandu pour vous. Parce qu'on parlait de deux coupes, on a voulu supprimer la deuxième. Non, elles sont toutes les deux nécessaires. L'une comme repas pascal, et je vous donne dans le commentaire de Luc tout le détail et la prière et la bénédiction qui était faite à ce moment-là. Donc vous avez toutes les données historiques. Je voulais simplement vous signaler cela. Cette coupe est la nouvelle alliance. Pourtant, voici. La main de celui qui me livre est avec moi sur la table. Nous avons reconnu Judas, mais nous ne reconnaissons pas toujours le Judas que nous sommes. Quand je suis à l'Eucharistie, je partage et en même temps je suis réticent, je retire ma main. Ou ma main est avec lui sur la table, mais ma main n'est pas plus. Parce que le Fils de l'homme fait route selon ce qui se trouve fixé. Pourtant, hélas pour cet homme-là, par lequel il est livré sans cesse. Et ils commencèrent à discuter entre eux pour savoir qui, entre eux, était de fait celui qui allait faire ceci. Et vous voyez que Luc reste dans l'anonymat pour bien nous faire découvrir que nous sommes tout un chacun celui qui va livrer Jésus et qui cependant participe à sa table. Et alors, vous avez, juste après cela, le petit discours après la scène, qui montre que le maître, c'est le serviteur, que Simon a été, voici le Satan, a revendiqué de vous cribler comme le blé, un peu comme le Job, là, hein. Mais moi j'ai imploré à ton sujet afin que ta foi ne fasse pas défaut. Et toi, une fois t'étant retourné, affermis tes frères. Et donc c'est cette tâche d'affermir les frères qui va lui être assignée dans les actes des apôtres. Celui-ci lui dit, Seigneur, avec toi je suis prêt à faire route sans cesse et en prison et à la mort. Effectivement, il le fera. Hein? Je te dis, Pierre, le coq ne donnera pas de la voix aujourd'hui, pas encore un jour, avant que trois fois tu aies renié me connaître. Et que le coq puisse chanter, que Jésus parle du coq, le coq signalant la résurrection, puisqu'il dit le soleil alors qu'il fait encore noir, il est l'animal de la résurrection. Et donc, il montre déjà à Pierre que le pardon, la résurrection, traverse son péché. Et puis, Jésus, comme le fera Paul plus tard, va engager ses disciples, les responsabiliser. Quand je vous ai envoyé sans bourse, sans besace et sans dalle, avez-vous manqué quelque chose? Je n'en ai rien du tout. Mais à ce moment-là, je vous ai envoyé et c'était moi qui prenais les coups. Maintenant, moi je suis parti et vous allez partir, et c'est vous qui allez prendre les cours. C'est ce qu'il faut bien comprendre. Puisque vous êtes devenu moi, vous allez prendre les cours que je prenne. Mais maintenant, que celui qui a une bourse la prenne, semblablement aussi une besace. Vous allez devoir prendre vraiment toutes vos responsabilités vous-même. Et celui qui n'en a pas, qu'il vende son vêtement et achète une épée. Car il y aura un combat spirituel à livrer. Mais eux, ils n'ont pas perdu, ils n'ont pas compris, évidemment. Car je vous dis ceci qui se trouve écrit, il faut que ce soit achevé en moi. Et il prend un passage d'Isaïe du serviteur souffrant, c'est le seul qu'il prend dans l'Évangile, avec les 100 lois, il fut compté, le serviteur Jésus. Car aussi bien en ce qui me concerne, ce qui me concerne, pardon, a une fin. Je suis un homme, j'ai pris la chair humaine, et donc mon travail humain va cesser. Et mon corps, qui est jusqu'ici mon corps de Jésus de Nazareth, va devenir le grand corps du monde. C'est ça qu'il faut commencer à découvrir. Les apôtres mettront du temps, évidemment. Je vais aussi dire, Seigneur, voici deux épées. Je vais dire, allez, ça. Bien compris. Donc Jésus nous dit, prenez vos responsabilités d'apôtre. Et ils vont prendre leurs responsabilités d'apôtre en disant.